franceinter.fr.
La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre. Et bonjour à tous. Le 13e travail d'Hercule, trouver un emploi. C'est l'écrivain et dessinateur Roland Topor qui écrivait cela dans son livre « Pense-bête ». Une phrase que ne renieraient pas celles et ceux qui sont au chômage, des lettres de motivation par dizaines, par centaines, des lettres et jamais de réponse, des formations sans débouchés et des conseillers surchargés. Et puis quand en prime on n'a pas la tête de l'emploi, c'est encore bien plus compliqué. La tête de l'emploi, le physique de l'emploi, tout le monde connaît ces expressions, mais ce ne sont pas que des expressions. Si l'on en croit ces deux études publiées pour l'une dans la revue Cosette et pour l'autre dans Sciences Humaines, la première concerne les femmes et c'est l'édito de Cosette qui s'en fait l'écho. Titre de l'édito, eh ben ma grosse, il y a du boulot, enfin non, pas pour toi.
Nous on a des physiques de radio, donc on a le physique de l'emploi. Et l'étude en question a justement pour titre le physique de l'emploi.
Une étude menée par le Défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail qui révèle que les femmes obèses sont 8 fois plus que les autres discriminés. Bien sûr, note le mensuel, on savait déjà que les Français n'aimaient pas les gros. Ni d'ailleurs les moches, les noirs et les arabes, les trans, les acariens, les autistes, les roms, les juifs, les musulmans, les nids-de-poules et les intellos, la pluie, les francs-maçons, les anglais et les choux de Bruxelles. Mais ce qui dans cette étude est peut-être le plus effarant, c'est le nombre de personnes qui ne trouvent rien à redire à la grossophobie ambiante. Près d'une femme sur 4 et plus de la moitié des hommes interrogés par les chercheurs considèrent qu'il est acceptable de ne pas embaucher quelqu'un en raison de son physique et, en l'occurrence, en raison de ses rondeurs. Mais être très beau, cela peut aussi handicaper un candidat.
Et ça, c'est ce que met en avant le magazine Sciences Humaines.
Cette fois, c'est une étude menée par une Britannique qui s'est penchée sur l'influence des stéréotypes sur le recrutement masculin. Et l'on y apprend que les hommes au physique agréable sont considérés comme les plus performants par la plupart des managers, mais que ce préjugé, pourtant très favorable, peut les pénaliser lors des entretiens. Dans le milieu du travail, où règne la compétition, et notamment dans les services commerciaux, explique la sociologue, les hommes beaux peuvent apparaître comme une menace pour leurs futurs collègues. Les résultats du manager et du candidat recruté seront ensuite comparés par leur supérieur hiérarchique, ce qui fait que le dit manager a plutôt intérêt à privilégier l'embauche d'un collègue qui ne lui fera pas d'ombre. En somme, choisir un moche, a priori, moins performant. On discrimine les femmes trop grosses, on discrimine les hommes trop beaux. Roland Topor avait raison. Aujourd'hui, trouver un emploi tient vraiment du travail d'Hercule. Et réformer le code du travail, là, ça tient vraiment du travail de Sisyphe.
La pétition sur Internet demandant le retrait du texte de Myriam El-Khomri a d'ailleurs franchi hier soir la barre du million de signatures.
À 20h, on en comptait 999 740, puis 999 800 à 20h30. Et c'est à 20h12 que le million de signatures a été atteint, rapporte Mediapart, en précisant que cette initiative est celle de tous les records, à commencer par celui du plus grand nombre de paraphes réunis par une pétition numérique en France. Une pétition intitulée « Loi travail non merci », pétition lancée il y a pile 2 semaines par des militants syndicaux et associatifs, en premier lieu la féministe Caroline de Haas, cette semaine. Intrigués par ce succès foudroyant, certains ont mis en doute la réalité d'une partie des signataires. Mais sur le site Huffington Post, le responsable du site qui gère la pétition assure que les fausses signatures sont nettoyées dans les 48 heures suivant leur apparition. Ce chiffre d'1 million serait donc un chiffre fiable. Dans Le Point, vous lirez le hit parade des pétitions qui fleurissent sur le web et ailleurs ces dernières années. Pétition contre le paquet de cigarettes neutres, 4 millions de signatures, mais la pétition est restée sans effet. Pétition contre le mariage pour tous, 860 000 signatures, mais la pétition est restée sans effet. Pétition contre la directive européenne sur le secret des affaires, 512 000 signatures, mais la pétition est restée sans effet. À bien y regarder, seules 2 pétitions ont obtenu gain de cause. La première, c'est celle qui demandait la naturalisation de Lassana Bathily, le héros de l'hypercachère. La seconde, c'est celle qui réclamait la grâce de Jacqueline Sauvage. C'était fin janvier. Dès lors, quelle suite attendre de la pétition contre la réforme de Myriam El-Khomri après un report de 2 semaines? Le texte sera présenté en Conseil des ministres dans 10 jours et une manifestation aura lieu mercredi prochain à l'appel de plusieurs syndicats de salariés et à l'appel de mouvements de la jeunesse, portrait de ces jeunes qui dénoncent la casse du code du travail en une de l'Humanité dimanche. On vaut mieux que cela, disent-ils. Et dans Le Monde, un collectif d'une trentaine d'économistes prennent, eux, la défense du texte, estimant qu'il est un moyen efficace pour lutter contre la précarité. Que va donc faire l'exécutif ? Modifier encore le projet ou carrément y renoncer ? Seule certitude, si l'on en croit ce matin Libération à l'Élysée, on est inquiet. Inquiet d'une possible révolte des jeunes, c'est le spectre du CPE, mais aussi celui des débordements incontrôlés. Toutes les contestations lycéennes et étudiantes sont imprévisibles. Et comme le résume Mediapart, Hollande se craint foutu si les jeunes vont dans la rue. Et là, pour les calmer, il y a encore du boulot.
Préparer la primaire à droite, c'est aussi un sacré boulot.
Et l'organisateur en chef Thierry Solaire annonce dans Le Point qu'une charte de bonne conduite du parfait candidat sera publiée le mois prochain par les Républicains. Pas de coup bas, pas d'attaque sur le physique et pas d'attaque sur l'âge, prévient le député qui espère ainsi éviter une primaire trop sanguinolente. Et pourtant, certains sarkozystes parmi les plus raffinés viennent de trouver un nouveau surnom pour moquer l'âge d'Alain Juppé. Il l'appelle maintenant Juppépé. Juppépé, doublement de la dernière syllabe. J'espère franchement que les juppéistes n'auront pas l'idée de faire de même avec Nicolas Sarkozy. Doublement de la dernière syllabe, ça donne Sarkozy-zy. Mais bon, vu le niveau du débat par moment, le pire n'est jamais à exclure. D'ailleurs, dans Libération, Johann Ufnagel nous explique qu'en matière de politique radépâquerette ou de caniveau, nous n'avons vraiment rien à envier aux Américains. Et que du coup, avant de nous gausser de la piètre qualité des débats des primaires qui se déroulent aux États-Unis, et avant de nous gausser des âneries proférées par Donald Trump, on ferait bien d'observer ce qui se passe chez nous. Trump a promis d'ériger un mur pour empêcher les migrants d'entrer aux États-Unis, mais y a-t-il vraiment de quoi rire et donner des leçons, demande-t-il, quand on voit que l'Europe laisse construire des barrières infranchissables aux réfugiés? Doit-on rire également des candidats républicains américains quand ils éructent sans gêne aucune leur haine de l'islam? Chez nous, nous avons les Le Pen. Rire des saillies sexistes de Trump quand chaque jour, ici en France, des politiques s'exclavent, y compris dans l'hémicycle, à l'Assemblée, ils s'exclavent de leurs blagues bien grasses. Et mon confrère de conclure, avant de rire, regardons-nous d'abord dans un miroir. La situation des réfugiés, c'est le sujet à la une du Figaro ce matin. L'Europe mise sur la Turquie pour bloquer les migrants. Lire dans le journal l'estimation glaçante du patron d'Europol qui s'inquiète de la disparition de milliers de mineurs depuis le début de l'année. 10 000 enfants ont disparu parmi les réfugiés dont certains sont maintenant vraisemblablement exploités à des fins criminelles, travail au noir ou bien pire, esclavage sexuel. De son côté, Le Parisien revient sur l'accident ferroviaire oublié de novembre dernier, le déraillement d'une rame d'essai du TGV dans le Bas-Rhin qui a causé la mort de 11 personnes. C'était au lendemain des attaques terroristes à Paris et d'après les informations du journal, c'est une erreur humaine qui serait à l'origine du drame, le cadre transport-traction qui n'aurait pas respecté la feuille de route initiale. Quant à Libération, il fait sa une sur les agressions quotidiennes dont sont victimes les usagères du métro parisien, des hommes nombreux qui se frottent contre elles et le journal demande pour elles le droit au voyage sans peur. Nous venons donc parler de métro, nous avons parlé de boulot, métro, boulot, reste maintenant Patricia.
Dodo.
Et à nouveau, ce sont deux études qui ont retenu mon attention, deux études piochées dans l'excellente revue Néon. Études menées pour savoir si notre façon de dormir influence nos rêves. Vous, vous dormez de quelle façon, Patricia ?
Très mal, et très peu.
Eh bien, sachez que ceux qui dorment sur leur côté gauche feraient 3 fois plus de cauchemars que ceux qui dorment sur le flanc droit. Sachez aussi que s'ils dorment allongés sur le ventre feraient davantage de rêves à connotation érotique sur le ventre. Oui, Patricia, c'est à se demander si bien dormir ne tiendrait pas là encore du travail d'Hercule, un travail d'Hercule pour tomber dans les bras de Morphée.
Je me mets sur le ventre dès ce soir. À demain, Frédéric Pommier.